9h, 10h, débat et controverse, Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Bienvenue aux réactions à l'actualité économique du jour. On est au début du mois d'octobre, alors c'est la fin du troisième trimestre, je ne vous apprends rien, mais c'est quand même l'occasion de faire un petit bilan de ce qui vient de se produire. D'abord en France, où la croissance cale, le centre de prévision de l'expansion nous dit vendredi que nous allons vers une croissance nulle en 2012. Si tel est le cas, ça veut dire que la moitié de la promesse de recul du déficit faite par le gouvernement ne sera pas tenue, qu'il faudra donc soit baisser des dépenses, soit trouver de nouvelles recettes en levant de nouveaux impôts. Nous avons des signaux négatifs qui nous viennent d'Asie avec le recul des marchés aujourd'hui. Il y a les leaders européens qui n'en finissent plus de se tâter pour savoir si la Grèce fera défaut ou pas, si elle remboursera ou pas, si les peuples d'Europe veulent plus d'Europe ou pas. Et puis l'inflation qui touche les 3% à la fin du mois de septembre. Et puis cet incroyable trimestre boursier que nous avons vécu avec des degrés de volatilité jamais connus et qui d'ailleurs sont de plus en plus difficiles à expliquer. Et puis, comme en fin de semaine dernière, c'est une semaine politique forte en France, la dernière avant la primaire PS, donc on fera à nouveau du j'aime, j'aime pas sur les principales idées économiques défendues par les 6 candidats à la primaire citoyenne, il faut dire. Avec nous, Olivier Berruyer, bonjour.
Bonjour.
Il est actuaire, il est spécialiste des statistiques, des probabilités, de l'impact. Les actuaires, c'est la probabilité. Je le rappelle chaque fois parce que j'ai regardé la définition pour me souvenir de ce qu'était ce métier. C'est donc la statistique, la probabilité de l'impact financier du risque pour les assurances. En tout cas, vous êtes auteur de « Stop, tirons les leçons de la crise, ce n'est pas fini ». La preuve par les chiffres, c'est aux éditions Yves Michel. Philippe Lenchener, bonjour.
Bonjour.
Il est fondateur de l'agence Value. Vous comprenez les marchés, Philippe, en ce moment ?
Je trouve ça obscène.
Obscène, c'est-à-dire ?
Ouais, bah, ce que je trouve obscène, c'est... Ce que je trouve obscène, c'est que les marchés ne se contrôlent pas, soient pas contrôlables, mais surtout que les gens qui sont à l'intérieur du système vous avouent qu'ils ne peuvent pas les contrôler.
Et surtout qu'ils ne les comprennent plus.
Voilà, et qu'ils ne les comprennent pas. Et je trouve que, à un moment donné, il faut cesser d'être économiste sur un sujet comme ça.
Il faut prendre votre avis.
Il faut prendre du recul et être sociologue et se dire que l'époque jugera, que l'histoire jugera bizarrement une époque où on s'avoue incapable de contrôler les flux migratoires, on s'avoue incapable de contrôler le réchauffement climatique, on s'avoue incapable de contrôler l'économie. Pour la petite histoire, on est de la même façon incapable de contrôler Marc Lièvremont et son équipe, tout comme on était incapable de contrôler Knysna et le bus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est à un bout de cycle où la société a fabriqué et généré des outils qui sont indépendants les uns des autres et où personne n'a de capacité à maîtriser, contrôler et agir. Et ça s'appelle Rome en 420, quoi. Ça s'appelle Rome en 420. Donc, moi, alors, je suis navré parce que là, brusquement, on mélange tout.
En
2012, en mai 2012, qu'un candidat de gauche ou qu'un candidat de droite gagne, mais que ce soit un candidat qui est de l'école de la maîtrise et de la reprise du pouvoir et de la reprise d'une souveraineté et qu'on arrête d'avoir des hydres qui se baladent à multi-têtes et qui sont incontrôlables. Pour moi, c'est l'élément fondamental du moment.
Henri Pigeat, bonjour.
Bonjour.
Il est fondateur de la lettre Ilissos, ancien patron de l'AFP. Olivier Berruyer, le bilan du trimestre. J'ai parlé de la France qui cale, j'ai parlé de l'Asie qui inquiète, j'ai parlé des leaders européens qu'on attend, j'ai parlé de la bourse qui pète un câble, de l'inflation qui fait timidement son retour. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ?
Je retiens de ça les prémices de la dépression qui se poursuit. Je veux dire, on essaie de nous faire croire
Vous mettez dépression.
Je mets dépression.
C'est un mot fort, dépression.
C'est un mot très fort, mais c'est bien la situation. Je veux dire, depuis 2008, il n'y a jamais eu de reprise. Je veux dire, la seule reprise qu'on a vue, ça a été une reprise financée à crédit par des milliers de milliards de fonds publics qui sont allés grever les dettes publiques.
Ça s'appelle TARP, ça s'appelle la relance, oui, d'accord.
Tout à fait. Mais enfin, sans ces sommes-là qu'on a dépensées sans les avoir et a priori qu'on ne souhaite pas rembourser, il n'y aurait jamais eu la moindre reprise. Donc, comme on arrive au terme de ces plans de pseudo-relance, enfin qui relancent rien, hein, qui sont essentiellement en train de brûler de l'argent dont on ne dispose pas, réapparaît la triste vérité, c'est que en effet il n'y a plus de croissance et on a une dépression souterraine qui est en train de réapparaître.
Bon. Henri Pigeat, même question, est-ce que vous achetez le scénario dépression qu'on pourrait appeler scénario Rome? Vous choisissez vos termes, mais
oui, je ne qualifierais pas, mais ce qui me paraît clair, c'est que nous sommes dans une situation, en effet, je suis d'accord avec Philippe Lenchener, une situation sans gouvernance, dans laquelle on peut voir une certaine logique, n'est-ce pas ? Si je lis les deux observations qu'on vient d'entendre, nous n'avons pas fait, il y a 3 ans, le diagnostic juste. On a considéré qu'il y avait un problème de liquidité. Donc, on était en période de déluge. On a fait des plans d'irrigation, comme disait Rueff, vous savez, l'économiste célèbre. En second lieu, on n'a pas tenu compte d'un phénomène qui est la mondialisation. La mondialisation, on en parle tous les jours, mais on ne tient pas compte de ses conséquences pratiques, dont les deux principales sont la chute des États. Or, toutes les régulations étaient nationales. De gré ou de force, c'est pas un choix personnel, mais c'est comme ça. Et bien entendu, on est très loin d'avoir pu commencer à mettre en place les prémices d'une régulation mondiale, malgré tous les G20 et tous les petits trucs que l'on fait. On en parle, c'est très bien, mais on est on a fait un centimètre du chemin sur lequel il faut des kilomètres. Et ceci se greffe sur un effondrement général qui maintenant est au bas du système monétaire international. Quels sont les systèmes de régulation dans une société ouverte? Vous avez un certain nombre de règles, un certain nombre de normes et un certain nombre d'autorités de surveillance et d'arbitrage. Et puis, vous avez par ailleurs la base qui est le système monétaire, c'est-à-dire la référence par rapport à un certain nombre d'unités. Or, nous sommes depuis 1971 dans un système de change flottant qui était à peu près gouverné par l'Amérique selon ses intérêts, mais après tout, le monde entier y trouvait son compte, donc ça n'était pas si mal. Et nous sommes passés maintenant, aujourd'hui, dans un système dans lequel il n'y a plus de société de centre dominant, puisque l'Amérique, tout en restant, les États-Unis, j'entends, tout en restant la première puissance, n'ont plus le pouvoir absolu. Il y a la Chine, et face à cela, il y a l'euro qui se cherche désespérément et qui se bat sur un certain nombre de petites choses apparentes, mais de choses fondamentales dans la réalité. Car quelle est la querelle européenne? Il y a deux politiques économiques qui s'affrontent en Europe, je crois qu'il faut le dire. D'un côté, une politique allemande et d'Europe du Nord qui est à peu près cohérente, me semble-t-il, sur un certain nombre de choses, et sur une base qui fait que l'État ne doit pas dépenser plus qu'il n'a de ressources, et une Europe du Sud dont j'ai la tristesse de dire que la France est un des leaders, volontaire ou involontaire, et qui considère, qui n'est jamais sorti d'une sorte de néo-keynésianisme. Je dis néo-keynésianisme parce que on rend idiot Keynes, on le fait passer pour un imbécile, ce qui était loin d'être le cas, mais l'interprétation qu'on a fait de Keynes et qu'on continue à en faire est absolument absurde. Keynes avait un sens dans une situation de reprise pour remettre du carburant en quelque sorte. Keynes, les solutions de Keynes en système permanent sont une aberration. Alors voilà, on en est là. La bagarre européenne, si on essaie de reclasser, la bagarre européenne, c'est de savoir laquelle de ces deux politiques va gagner en Europe. C'est beaucoup plus ça que de savoir si c'est Mme Merkel qui va commander ou M. Sarkozy qui va commander. Ça, c'est le point de résultat, c'est oui. le point de fond. Et puis, sur le reste, est-ce que l'on va arriver à un minimum d'entente entre les grandes puissances économiques du monde? Et il y en a trois, quoi qu'on dise. Il y a bien les États-Unis, la Chine et les gens qui le suivent, et l'Europe, peut-être. On en est là. C'est cela qui explique le court terme et qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe et que les marchés sont fous, accessoirement.
Cette espèce de dichotomie entre les buveurs de vin et les buveurs de bière, comme disait un jour François Langlais. Réaction Philippe Lenschner. Après, je vous demanderai. J'ai une question quand même pour Henri.
Oui, dans ce que vient de dire Henri Pijat, c'est intéressant parce que qu'on soit. Je vais essayer, après ce que je viens de dire, je vais essayer de trouver un point d'optimisme tout de même. C'est que qu'on soit d'une école ou de l'autre, il y a une chose neuve, c'est une prise de conscience de destinée européenne. Et ça, c'est très neuf. Le fait de se dire qu'on ne vit pas en France, ou on ne vit pas en Allemagne, ou on ne vit pas en Italie, ou on ne vit pas en Espagne, mais on vit en Europe, et que ce fameux proverbe on est fort du fameux maillon le plus faible de la chaîne, est réel. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un Français aujourd'hui qui peut être tranquille en se disant que, à la fin de l'année prochaine, sur les 21% de chômeurs espagnols, 10% seront en fin de droit, et que ça va nous faire une catastrophe atomique, avec là le rapport au PIB pour la Grèce, c'est 3,5, là on va se retrouver à 5 pour les Espagnols, et avec quelque chose qui pèse pas 3% de l'Europe mais qui pèse bien plus, et que là l'Espagne pourrait être une déflagration la plus complète et totale. Donc une chose positive, c'est la prise de conscience d'une destinée européenne. Alors ensuite, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on en fait de cette prise de conscience? Est-ce qu'on va au bout de la prise de conscience? Est-ce qu'on ouvre le débat du fédéralisme? Est-ce qu'on ouvre le débat? Ou est-ce que, au contraire, on revient vers les fameux États-nations qui, pour le moment, nous mènent au mur totalement? Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure.
Mais on va revenir là-dessus tout de suite avec Olivier Berruyer dès qu'on aura fait la pause marché.
Alors faisons la pause.
Non, mais absolument, voilà, la prise de conscience du destin européen, est-ce que c'est une prise de conscience de Philippe Lenschner ou de beaucoup plus de gens, y compris les politiques qui nous gouvernent? On marque cette pause à 9h14. À tout de suite.
BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts.
Retour avec Henri Pijat, Olivier Berruyer et Philippe Lenschner. Juste avant de faire réagir Olivier Berruyer sur la prise de conscience de la destinée européenne, vous disiez, Henri, erreur de diagnostic au départ. Mais chaque fois, on prend des décisions dans l'urgence. Chaque fois, on se trouve avec une agence de rating qui dégrade. Il faut réagir très vite. On a cru que c'était un problème de liquidité. On a fait des plans de relance. Dire 2 ans et demi après, 3 ans après, on aurait dû. Denis Kessler nous a fait le coup dans les échos il y a 15 jours. Ah, il fallait, il n'y avait qu'à. Ben oui, mais...
Oui, je crois que le fait de n'avoir pas vu en 2008 n'est pas une excuse pour continuer à se tromper en 2011.
Ah, parce que vous voulez dire que l'erreur de diagnostic, on est en train de la perpétuer.
Il me semble. Moi, je ne suis pas aux commandes, ni d'une banque, ni d'un ministère des Finances ou que ce soit, mais j'ai le sentiment que l'on continue à faire une analyse qui était fausse. Si on reprend l'historique, on peut tout à fait comprendre que les responsables financiers et économiques se sont dit, bon, il y a un grain qui passe, il faut passer l'orage, etc. On peut tout à fait comprendre que les politiques se soient dit, vis-à-vis du même grain, il faut amortir les chocs, à la fois économiques et sociaux, donc, très bien. Le drame, c'est que tout ça s'inscrit dans une vulgate, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un ensemble de doctrines et de croyances qui ne sont jamais discutées et jamais remis en question, et qui sont grosso modo ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire plus on dépense de l'argent public, mieux ça va marcher.
C'est le monde de l'ancien monde qui n'arrive pas à s'adapter au nouveau.
C'est le monde du lendemain, enfin grosso modo du New Deal d'Amérique, de la veille des années de la guerre, et qui s'est perpétué ensuite, qui nous a donné d'ailleurs les 30 Glorieuses. Moi, je ne dis pas du tout c'est bien en permanence ou c'est mauvais en permanence, mais si vous vous remettez dans la situation d'une entreprise, qu'est-ce que fait le chef d'entreprise tous les matins? Il regarde son marché et il regarde l'environnement extérieur. Et il se dit, tiens, l'environnement extérieur a changé. Donc, mon marché va changer, il faut que je change peut-être ma production, mon marketing, etc.
Mais on sait que bouger une entreprise et bouger un État, c'est quand même très, très difficile.
Voilà. Alors, bon, d'accord, mais quand même, la durée de l'erreur, me semble-t-il, ou de la non-interrogation. Moi, je n'ai pas de solution. Toute faite, je ne prétends pas, si j'avais la solution, je serais milliardaire, alors qu'il est, et je n'aurais peut-être pas le plaisir d'être avec vous ici. Donc, je dis, est-ce que néanmoins, on ne peut pas s'interroger? Et est-ce qu'on ne peut pas pousser la question un peu plus loin en observant que les pays qui ont rétabli, je parle de l'Europe, qui ont rétabli une politique économique qui me paraît cohérente, c'est-à-dire ramener l'État à sa place, faire en sorte que les mécanismes économiques puissent fonctionner et que l'intervention publique ne perturbe pas tout systématiquement. Je pense grosso modo à l'Allemagne et aux pays d'Europe du Nord.
Je ne sais pas deviner, oui.
Voilà. Bien, on s'aperçoit que la situation n'est pas formidable et ils subissent la tempête générale, mais néanmoins, ça va mieux.
La perte de contrôle n'est pas une fatalité.
Ça va mieux. Alors, bien sûr, ça s'est fait à un certain prix. Les gouvernants allemands, il y en a au moins un qui a sacrifié son avenir politique, M. Schröder, une seconde qui va peut-être le sacrifier, mais au moins, elle peut se dire que face à l'histoire, elle a essayé de servir l'intérêt général. Et on trouve la même chose exactement en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, etc.
C'est ce que je disais pour caricaturer, il vaudrait mieux en France tomber pour des valises d'économie budgétaire plus que des valises de pays africains pour la postérité.
Je ne pose que cette question. Je dis, on a fait un diagnostic, on a appliqué une thérapie depuis 3 ans, ni l'un ni l'autre ne marche, on continue, on en fait plus. D'accord. Est-ce que ça ne pose pas une question ?
Olivier Berruyer, là-dessus, et puis sur le sentiment européen, et puis les buveurs de bière versus les buveurs de vin.
Je partage sur cette incapacité, en effet, à tirer, pour le moins, les leçons des échecs passés. Ceci étant, bon, vous disiez qu'il y avait un problème de diagnostic. Pas partout. Moi, j'incite tout le monde à relire le discours de Nicolas Sarkozy de Toulon d'octobre 2008. Vous avez une sacrée analyse. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une seule action concrète pour lutter contre la finance et pour lutter, enfin, en tout cas, contre le financiarisme. En tout cas, pour remettre des règles et pour remettre un pouvoir politique qui, au bout d'un moment, reprend les rênes et essaye de gouverner vraiment dans l'intérêt général. Au niveau des, enfin, je rebondis sur quelques points. Vous parliez de l'Allemagne. Enfin, modèle allemand, que je sache, il a 2000 milliards d'euros de dette aujourd'hui. Enfin, moi, je suis fasciné d'entendre partout l'Allemagne comme le modèle, enfin, comme si l'Allemagne avait des excédents depuis très longtemps, qu'elle n'avait pas de problèmes financiers. Elle a les mêmes problèmes financiers que nous.
Elle ramène son déficit à 1,5% à la fin de cette année et a priori à 3, enfin,
à 1,
à quasi zéro fin 2014.
Je suis d'accord.
Oui, elle est balance commerciale.
Elle est sur une trajectoire intéressante par rapport à nous. Bon, en tout cas, sa dette, le niveau de dette, il est à peu près équivalent au nôtre. Sur les 20 dernières années, 17 fois sur 20, elle a eu une croissance inférieure à la nôtre. Aujourd'hui, elle arrive à rééquilibrer un peu ses finances publiques, parce que les gouvernements que vous citez tout à l'heure, pour moi, n'ont absolument pas agi dans l'intérêt général. Ils ont agi dans quelques intérêts particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands ? Les Allemands, ils ont, en gros, bloqué les salaires. Quand vous regardez, que vous comparez l'Allemagne...
Ça, c'est Schröder et les lois Hartz.
Oui, mais quand vous comparez l'Allemagne, non pas juste à la France, parce que sinon, vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux pays, mais à toute l'Europe, l'Allemagne est un cas unique. Le gouvernement allemand a en gros décidé d'exploiter sa population et d'exploiter ses voisins.
C'est un pays mercantile, il n'y a aucun problème.
Oui, mais ça, c'est je dirais, la concurrence, c'est quelque chose de très important qu'il faut à mon sens, stimulé. Mais il y a un point de concurrence qu'il faut combattre, c'est l'ajustement par les salaires. Si on se met à bloquer les salaires, à réduire les salaires, c'est la négation même. Enfin, en tout cas, c'est un poison pour le capitalisme que tous les capitalistes ont compris. Il y a qu'à remonter à Henry Ford qui n'était pas comme trotskiste. Lui, il a doublé les salaires. Il a bien compris que si dans le capitalisme, vous n'avez pas de quoi alimenter la consommation, le modèle s'écroule. Alors l'Allemagne a une politique... Enfin, moi, je le qualifie de parasitaire, très clairement. Elle a décidé de bloquer ses salaires. Effectivement, pour le moment, ça marche. Elle arrive à être excédentaire. Ça ne marche que pour une seule raison, c'est qu'on n'a pas fait la même chose. C'est-à-dire, si nous aussi, on avait fait comme elle, ben, on aurait bloqué notre croissance. Et ces belles exportations, l'Allemagne ne les aurait pas aujourd'hui parce qu'en effet, on serait devenu, entre guillemets, plus compétitif. Et ce serait une misère rampante dans les deux pays. Et vous accélérez la dépression dans les deux pays en faisant ça. Et l'Allemagne, aujourd'hui, est protégée par l'euro, puisqu'évidemment, elle fait cette politique alors qu'on a la même monnaie. Ce serait pas très gênant si on avait un franc et un marque. Et qu'est-ce qui se passerait? Le marque actuellement serait à 1,30 francs. Et naturellement, comme le montrait Rueff, que vous citiez tout à l'heure, il faudrait un rééquilibre des balances commerciales. Aujourd'hui, on a fait une monnaie unique, sans règles. Alors forcément, c'est la prime à celui qui va être le plus sévère avec sa population, qui va jouer à fond le registre de la compétitivité, mais la compétitivité salariale est quelque chose de très dangereux dans le modèle capitaliste. Et aujourd'hui, on voit en effet que ça crée des tensions très fortes entre pays. Parce que la logique de ça, c'est d'aller peut-être plus loin, mais d'avoir un budget et que l'Allemagne redonne l'argent. Est-ce qu'elle a envie de le faire? Non, et ça se comprend qu'elle n'a pas envie de le faire. Donc on voit ici, c'est quand même une des tares.
Philippe Lenchener, sacrée démonstration des deux côtés là. Alors,
Sur l'Allemagne, alors sans rentrer dans un débat trop économiste, parce que d'abord je ne le pourrais pas, et puis vous connaissez ma particularité, moi je suis un spécialiste de l'opinion, des représentations, etc. Alors donc, vu de ma fenêtre et de mon expertise, je vois quand même une chose, c'est que je trouve que l'Allemagne est en train de nous faire un traité de Versailles à l'envers et qu'elle devrait faire attention. Parce que ce qu'elle nous fait là, vu de ma fenêtre, je vais vous dire ce que je vois. Ce qu'elle nous fait là, c'est enfermer l'Europe dans une logique de conflit entre pays prêteurs et pays qui reçoivent. Et notamment avec une série de diktats. Et ça construit des peuples qui sont soumis et des peuples qui sont furieux. Et avec des risques démocratiques. Moi, je ne sais pas quels seront les futurs gouvernements grecs. Ou du moins, je le sais trop. Il n'y en aura pas, parce qu'on va les coller sous tutelle, et puis on mettra quelqu'un à la tête.
Mais et donc, pour la destinée européenne que vous décriviez.
Oui, parce qu'on n'a pas de fédéralisme européen. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va mettre à la tête, non pas un dictateur, mais un mafieux, parce que le mafieux, il saura aller voir les gens qui ne payent pas d'impôts et leur dire, voilà, maintenant, toi, je te mets dans le port du Pirée si tu ne payes pas d'impôts. Mmh. Prenez ce que je dis comme quelque chose d'ironique. Vous verrez, donnons-nous rendez-vous dans quelques mois ou quelques années. Je trouve que l'Allemagne serait très 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 bien inspirée à décréter que comme elle avait une priorité durant 20 ans sur une Ostpolitik, sur une politique de l'Est, elle devrait décréter la même priorité sur une politique européenne. Mmh. Et là, parce qu'aujourd'hui elle est face à une contradiction, elle ne se rend même pas compte que le sol pourrait se dérober sous ses pieds. Parce qu'à refuser de sauver l'euro, elle pourrait au contraire se retrouver dans une situation où elle a tellement besoin de l'euro, où elle est tellement dépendante de la zone euro, que je ne sais pas ce que donnerait un éclatement global.
Alors on va marquer une pause, vous réagirez tous dans un instant. C'est le niveau de débat est passionnant.
J'aimerais tout à l'heure répondre.
Henri Pijat, vous répondrez. Le débat est passionnant, puis on fera le j'aime pas quand même sur les propositions du PS. À tout de suite. Henri Pijat, le fondateur de la lettre Illissos, ancien patron de l'AFP. Olivier Berruyer est actuaire, il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise. Ce n'est pas fini, la preuve par les chiffres aux éditions Yves Michel. Je ne vais pas trop vite pour dire le titre, parce que sur les blogs... Comment il s'appelle le blog déjà, Olivier ?
Les-crise.fr.
Les-crise.fr. Il paraît que les blogueurs du site trouvaient que j'avais... un peu écorné le titre, qui est allé trop vite, que j'avais mal vendu, donc le titre « Stop, tirons les leçons de la crise » chez Yves Michel. Philippe Lenchener, fondateur de l'agence Value. Alors, Henri Pijat, vous allez réagir à ce qu'on a entendu, parce qu'on a mis le niveau assez haut, on a mis la barre assez haut sur l'analyse de la situation européenne, sentiment européen, pas sentiment européen, et Philippe Lenchener concluant que l'Allemagne était peut-être en train de nous jouer un traité de Versailles à l'envers.
Oui, alors moi j'aimerais revenir un peu sur ce point, pour dire plusieurs choses. D'abord, l'Allemagne subit la crise.
Personne n'y échappe, on va dire.
Voilà, on ne peut pas considérer qu'elle est à l'abri.
Par contre, tout le monde achète du Bund aujourd'hui. Voilà. Les gens qui ont peur achètent du Bund.
Et l'Allemagne, Dieu merci, est dans une démocratie qui fonctionne plutôt bien. Bon, alors ces deux points sont tout à fait fondamentaux parce que, quelles que soient les analyses économiques qui peuvent être faites chez les financiers économistes allemands ou chez les politiques, ils ont à tenir compte de leur opinion publique. Et cela a été dit très justement, c'est vrai qu'on a beaucoup demandé aux salariés le rééquilibrage de la situation allemande s'est fait largement au détriment, je suis d'accord,
mais des salaires et des pensions, il n'y a pas de problème.
Alors, ça
a
été la est-ce que ça signifie que... il y a, on le voit, il suffit de regarder les élections, n'est-ce pas? Nous venons de vivre, nous, le point d'arrivée du Sénat après 5 ou 6 ans d'élections locales, toutes dans le même sens. En Allemagne, quand vous regardez les élections dans les Länder, je me méfie de l'effet tableur, en politique comme en économie, mais enfin, on peut se dire que logiquement, ça peut déboucher sur un changement de majorité, qui n'aurait pas du tout le même sens d'ailleurs en Allemagne qu'en France, mais c'est une autre histoire. Alors, est-ce que ça signifie que l'Allemagne est en mauvaise position? Moi, je ne dirais pas qu'elle est en position parfaite, mais j'ai quand même le sentiment qu'elle a des bases qui lui permettent de réagir mieux que nous. Nous avons épuisé toutes nos munitions, alors que la crise n'est pas finie. C'est-à-dire que nous n'avons plus de capacité d'emprunt. C'est même l'inverse, on risque de ne pas pouvoir rembourser nos emprunts. S'il y a la moindre hausse sur les taux d'emprunt,
la charge de la dette devient insoufflable. Voilà. C'est pas Olivier Berruyer qui vous contredira sur ce point.
Bon.
Ça, j'en suis sûr.
Alors, il est plus compétent
que moi. Il a une analyse sur le fait de que nous soyons incapables de rembourser, qui est tout à fait pertinent.
Donc, je n'insiste pas, il est plus compétent. Deuxièmement, l'Allemagne a quand même une balance commerciale, une balance équilibrée et qui reste assez saine. Donc, il me semble qu'elle a des ressources que nous n'avons pas. C'était le sens de ma remarque tout à l'heure.
Elle manque d'enfants, mais elle a des ressources.
Oui, alors ça, vous avez raison. Alors, on peut faire... Il y a plusieurs registres, n'est-ce pas?
Mais bien sûr.
Sur l'immédiat, c'est ça. L'autre remarque que j'aimerais faire par rapport à ce qui a été dit, c'est sur l'Europe. Moi, au risque de paraître angélique, j'ai l'impression que l'Europe progresse. Ça a l'air tout à fait paradoxal de dire ça, à un moment où il y a des gens qui disent « sortons de l'euro », etc. J'ai le sentiment, quand on regarde les choses, que par nécessité, plus que par enthousiasme, les décideurs politiques et d'une certaine façon les opinions sont résignés à ce que l'Europe progresse. Sans doute parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans le monde tel qu'il est. Sans doute aussi parce qu'il y a toute une série de choses pas très visibles, assez ennuyeuses, assez techniques, mais qui sont réelles. Moi, je me suis amusé il y a quelques semaines à faire le bilan des résultats, si vous voulez, de tout ce qui a été tenté en matière de régulation bancaire, financière, dans les systèmes d'observation, les systèmes de sanctions, etc. Je suis obligé de dire que dans l'austérité du sujet et du chantier, il y a manifestement un pas en avant. Jusqu'à nouvel ordre, et malgré tous les happenings que nous vivons et que nous accentuons ici comme dans d'autres médias, jusqu'à présent, des solutions ont été trouvées pour éviter le pire.
On a toujours trouvé un expédient pour gagner quelques jours, quelques heures, ou espérer
gagner quelques
semaines.
Est-ce que c'est un expédient ou d'une certaine côté de la médaille, ça paraît un expédient, puisque ce n'est pas suffisant. L'accord du 21 juillet, on dit, bah oui, mais il faut l'appliquer, puis il faut ceci, puis il faut cela. Mais de l'autre côté, mais après tout, on a évité de tomber dans le précipice, et de l'autre côté, on progresse. Moi, je suis désolé. Revenons à l'Allemagne. La position des autorités monétaires allemandes a quand même considérablement évolué au cours des 6 derniers mois.
Oui, tous les leaders ont quitté la BCE, en étant en désaccord fondamentaux les choix faits en urgence par la BCE, qui, c'est vrai, s'est mouchée avec ses statuts pour venir en aide au marché qui en avait besoin.
Dans la réalité, on s'aperçoit, il est très dangereux d'utiliser des mots qui ne correspondent pas à la réalité. On parle de fédéralisme, oui. Pour tous les gens qui ont fait un peu de droit constitutionnel, ça représente quelque chose, on en est très éloigné, mais on avance quand même vers quelque chose qui est une certaine structure de décision commune.
On va faire réagir. Alors, allez, Olivier Berruyer, Philippe Lenchiner, sur le fait qu'il y a du progrès, et notamment on pense à cet aspect très technique d'un fonds européen de stabilité financière qui pourrait muter en banque, profitant de l'effet de levier bancaire en se refinançant à la BCE. Alors allons-y sur les progrès quand même, Olivier. Est-ce que vous en voyez ?
Pour moi, je considère pas que l'idée européenne est en train de progresser. Enfin, bien au contraire, et c'est ce qui m'inquiète. Pour moi, la seule progression de l'idée européenne, elle doit être, j'allais dire, dans l'esprit, dans le cœur des peuples. C'est-à-dire qu'on fasse des dispositifs techniques, bon, que je qualifie de fous, aller faire des fonds de centaines de milliards d'euros, sans financement. Il n'y a pas de budget européen. Donc on décide d'aller se porter, soi-disant, au secours de la Grèce, alors qu'on va se porter essentiellement au secours des prêteurs de la Grèce. En contradiction flagrante avec l'article 125 du traité de Lisbonne. Il y a une chose extrêmement claire. Les États ne répondent pas.
C'est l'article qui interdit donc le bail-out, le fait que la BCE puisse devenir prêteur, voire apporter des garanties même à des États ou des institutions.
Au-delà de la BCE, c'est déjà que les États eux-mêmes ne doivent pas s'occuper des pertes publiques des autres États. C'est un dispositif fondamental du traité de Maastricht. C'est-à-dire la campagne de 93 a été bâtie là-dessus. On est en train de s'en foutre royalement et on prend des mesures qui sont strictement contraires. Et il y a vraiment un point que je dénonce, c'est l'espèce d'enfumage où on essaye de mettre ensemble l'idée européenne, l'euro et les pertes actuelles entre un État qui emprunte face à des prêteurs privés. Je vois pas le lien qui est entre les deux. Si la Grèce fait défaut demain, quel est le rapport avec l'euro?
Bien compte du niveau de stress que provoque la moindre nouvelle concernant une dette souveraine. Des tensions de CDS sur l'Italie complètement irrationnelles.
Il faut que les gens détressent. Enfin, ils ne sont rien d'irrationnel. Les pertes sur l'Italie. Enfin, à un moment donné, l'Italie n'est pas capable de rembourser sa dette comme la plupart des États. Donc, c'est sûr que les CDS montent. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a d'irrationnel là-dedans. Mais en tout cas, sur le fond du sujet.
En 24 ans, tout d'un coup, ça explose alors que ça fait 15 ans que l'Italie est à 120% de dette publique.
Ce qui se passe de nouveau, c'est que les marchés sont en train de voir la réalité. Oui. Enfin, et on est en train de se réveiller petit à petit. Bon. Mais vraiment, le fait qu'un pays fasse défaut n'a aucun lien avec l'existence de la monnaie européenne. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est Robert Mundell, qui est quand même le prix Nobel d'économie spécialiste des unions monétaires, qu'on appelle le père de l'euro, qui dit en effet, si la Grèce elle fait défaut, quel rapport avec l'euro? En quoi ça met l'euro en danger?
Ça veut dire quoi, Olivier, pour aller vite là? Mais ça veut dire quoi? Allons-y.
C'est qu'on est en train d'éviter, et de tout faire pour qu'il y ait des investisseurs privés qui ne prennent pas leurs pertes, alors qu'ils ont été assez fous pour prêter à l'euro, à la Grèce. D'ailleurs, c'est pas à moi, contribuable européen, de payer pour ça. À un moment donné, moi, j'ai pas prêté à la Grèce, je vois pas pourquoi je vais payer les pertes de ceux qui prêtent à la Grèce.
C'est ce que disait Jean-Marc Vittori, les Échos, très clairement. Moi, en tant que contribuable, je n'ai pas envie de payer pour les Grecs. Et d'ailleurs, si on faisait le sondage aujourd'hui, on a fait le sondage. Maintenant, la majorité des Français n'est plus d'accord,
oui, mais
alors qu'elle l'était il y a un an.
La majorité des Français aussi. On ne fera pas l'Europe contre les Français. Et si on veut faire l'Europe sans les peuples, on va faire le fascisme avec les peuples.
Il est certain que si aujourd'hui on posait une question par référendum en Europe, voulez-vous plus d'Europe? Je ne suis pas sûr que la réponse serait celle que l'on souhaite. On conclut là-dessus, Philippe Lenchener. C'est essentiel ce débat.
Mais moi, je suis frappé avec la contradiction des gens qui disent je veux pas payer pour les Grecs et qui en même temps du coup refusent de faire payer ceux qui devraient payer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire je ne veux pas payer pour les Grecs et de l'autre côté être complètement aveuglé par une idéologie qui consiste à dire on ne va pas faire un 0,1% sur les transactions financières ni faire payer les banques parce que si ce n'est pas les transactions financières, si ce n'est pas les banques, si ce n'est pas les gens qui payent, moi je ne sais pas qui paye. Voilà, là je vais être extrêmement simple, je ne sais pas qui paye. Alors sur cette histoire de destinée européenne et de l'Europe, moi je pense que je l'ai déjà dit ici avec vous. J'ai une obsession, une idée fixe. Je vois une chose très très simple. Le jour où Jacques Chirac a dit que l'État français était responsable de Vichy, la communauté juive n'a plus rien dit, a été calmée et les résistants également. Le jour où le rôle de l'État français a été Chirac également a reconnu l'esclavage, le cran n'a plus parlé, il n'y a plus eu de problème. Il y a une philosophe américaine qui l'a expliqué, elle s'appelle Houston. Le plus haut degré de justice et de compréhension aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Donc aujourd'hui, tant qu'on ne reconnaîtra pas idéologiquement que l'école 1992, Maastricht 2005, du refus et du non a gagné historiquement et que l'histoire a réglé ce problème, on ne pourra pas avancer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on avance, on avance face à des crispations du moment, mais ensuite l'idéologie revient au secours et on ne prend pas les bonnes décisions. Donc tant que aujourd'hui, l'ensemble du système médiatique et politique en Europe ne dira pas que le débat de 2005 a été tranché historiquement et que oui, on ne pouvait pas faire l'Europe à autant de pays et que oui, il fallait un gouvernement économique européen et que oui, il fallait pouvoir prêter en euros à des pays qui étaient dans la zone euro et que oui, il fallait etc., etc. Comprenons-nous bien. Tant que ça n'est pas dit, on ne pourra pas réfléchir calmement et tranquillement à quelles sont les décisions que l'on prend aujourd'hui. J'avais repris l'image du Bad Godesberg des sociodémocrates allemands qui avaient abandonné la référence au marxisme, ce qui leur avait permis de rentrer dans la gestion du capitalisme. De la même façon, s'il n'y a pas un aggiornamento sur l'idéologie européenne de ces 15 dernières années, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions.
Il faut la marquer cette pause. Tout ça est absolument passionnant. 9h45, j'espère qu'on pourra parler un peu du PS quand même. Bon, alors, réaction d'Henri Pijat pour terminer cette émission aujourd'hui à ce qui vient d'être dit. Je ne résume pas ce qui vient d'être dit parce qu'ils l'ont beaucoup mieux dit que moi et la pensée, elle est assez loin. Quelle est votre position brièvement, Henri? Parce qu'on va passer après.
30 secondes sur ce qu'a dit Philippe Lenchener qui me paraît tout à fait fondamental.
C'est le déni. Il dénonce le déni, Philippe.
Je crois qu'il a raison. Je souscris, pardon, ça ne contribue peut-être pas au débat si on est d'accord.
Mais vous avez le droit de souscrire.
Je crois qu'il a fondamentalement raison. Nous avons eu, il y a une politique européenne à peu près cohérente de 1958 à à Maastricht. Et puis Maastricht est adopté...
92 Maastricht.
Voilà. Voilà. Qui est adopté dans l'ambiguïté, n'est-ce pas? Et qui est la fin d'un cycle. Et à ce moment-là, l'opinion publique, je crois qu'on ne le dit pas toujours, de façon très rationnelle, à peu près dans tous les pays, réagit. Et elle réagit négativement. Mais on n'en tient aucun compte. Et pourquoi? Ce n'est pas une réaction anti-européenne, comme on dit parfois un peu rapidement. Ça ne veut pas dire, me semble-t-il, que chacun veut reprendre ses billes et que le Luxembourg veut vivre tout seul, etc. Et Malte. Ça veut dire simplement que le type d'Europe qu'on a fait après, qui est une Europe du chien crevé au fil de l'eau. Vous voulez adhérer, mais adhérez donc, etc. Le seul point d'arrêt, ça a été la Turquie. Et ensuite, pour de mauvaises raisons. Eh bien, il faut réinventer l'Europe. Si j'étais candidat à la présidence de la République, on peut rire une seconde, moi, je ferais une grande déclaration pour dire, mesdames, messieurs les électeurs, il faut changer absolument notre politique vis-à-vis de l'Europe. Il n'y a pas d'unité absolue possible entre les 27. Il faut... Tout le monde fait partie de la famille européenne, mais il y a plusieurs registres. Ce n'est pas une question de dignité, c'est une question d'efficacité et de solidarité.
Mais il y a un moment où il faut prendre des vraies décisions, Henri. Est-ce qu'on fait l'Europe des buveurs de bière face à l'Europe des buveurs de vin?
Oui, mais bien sûr. Mais voilà,
est-ce qu'on met une banque centrale à Paris?
Non, je ne crois
pas. Une banque centrale à Francfort?
Je ne crois pas que ça sera le débat. On n'a pas le temps là, de faire de la psychanalyse. Chacun sait que la France a fait pendant longtemps une politique européenne qui consistait à utiliser l'Europe pour garder son apparence de puissance. C'était une illusion, c'est mort. Le général de Gaulle a donné l'illusion de ça, mais ça ne pouvait pas durer. Donc il faut réinventer une Europe entre un certain nombre, qui sont grosso modo les pays de l'euro, enfin le noyau dur de l'euro, pas les 16 ou 18 ou 17, mais on voit bien ce qui se dessine. Tous les experts ont dessiné ça. Le problème, c'est que malgré la multiplicité des élections, aucun candidat n'a su ou n'a eu le courage de le dire. On va arriver à cette réalité. Et Philippe a tout à fait raison.
Oui, mais le problème, Henri, c'est que cette réalité, c'est devenu un copyright des extrêmes, souvent dans les débats politiques nationaux, qui s'emparent effectivement d'une forme d'échec de la promesse européenne pour en faire un terreau de campagne. Et à ce moment-là, l'idée, dans la mesure où elle est copyrightée, je dis n'importe quoi, Villiers, Le Pen, et ben plus personne n'ose y toucher.
Oui, non, mais
parce que le débat devient interdit.
Oui, mais il y a un certain nombre de gens qui ont une analyse certaine, qui l'ont eue. Alors, ce ne sont pas des hommes politiques actuellement, ou le dernier, ce serait sans doute Jacques Delors, mais bon, il est maintenant en fin de carrière, en tout bien, tout honneur, et je le dis très respectueusement. Mais j'espère que tôt ou tard, il y aura des gens responsables pour dire, ben, voilà ce qu'est la réalité, et qui mettront en phase ce que ressentent, j'allais dire confusément, ce que ressentent intelligemment les opinions publiques, n'est-ce pas ? Et ils voient bien que le système que l'on essaie de faire fonctionner ne peut pas fonctionner. Mais grosso modo, d'une certaine façon, c'est ce que disent les bons experts de la BCE, n'est-ce pas aussi ? D'une certaine façon, leur discours revient à cela. Donc je crois qu'on arrive au moment de vérité. Alors je termine, si vous permettez, par un souhait. On aimerait que dans une élection présidentielle, en France par exemple, ce genre de débat soit mis sur la table, plutôt que de savoir.
On verra quand on aura un candidat à gauche et pas
peut-être,
six. Bon. Allez, on termine justement avec la politique, avec les propositions du PS. Il y aura le 5 octobre sur BFM TV, le dernier des grands débats entre les six avant la primaire citoyenne. Il ne faut pas dire PS parce qu'il y en a un qui n'est pas PS dans le lot. Alors, comme toujours, il y a toutes les idées économiques, notamment celle d'imposer des représentants de l'État dans les banques, Olivier Berruyer, avec un droit de veto. Arnaud Montebourg dit pas s'il entre au capital, mais il mettrait des représentants de l'État pour avoir un droit de veto sur les décisions qui sont prises par les banques aujourd'hui. Ça vous paraît crédible? C'est ce qu'il faut faire? Vous y croyez?
En tout cas, je pense qu'il est intéressant d'émettre des propositions et qu'on en discute, parce que le débat actuel qui se résume souvent où il n'y a pas d'alternative, surtout changer rien, ça marcherait bien.
D'accord.
Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion sur les banques. Moi, j'ai tendance à penser qu'une banque, c'est pas une entreprise comme une autre.
Donc, lui, il dit d'autorité. Hein. Il y va franchement, Montebourg. D'autorité, je suis chef de l'État.
Mais comme malheureusement, le système bancaire est sans doute promis à quelques soubresauts sévères dans les mois et trimestres à venir, ces questions-là vont forcément faire l'objet de débats intéressants. Est-ce que les banques, il faudrait pas, je sais pas, réfléchir à une forme peut-être de socialisation, soit pas de nationalisation, mais en tout cas de socialisation. Je dirais, est-ce qu'on peut considérer que c'est des actionnaires privés qui décident de comment marche le système bancaire, qui est vraiment le poumon, hein. C'est le cœur, c'est lui qui envoie le sang dans l'économie, qui envoie l'argent dont ont besoin, je dirais, tous les entrepreneurs, tous ceux qui bougent pour faire marcher le pays. Est-ce que ça doit rester sans modification? Moi, j'en suis pas persuadé, mais débattons-en en tout
cas. Philippe Lenchenin, non, mais d'accord, la socialisation du secteur bancaire sans aller jusqu'à la nationalisation.
Non, la raison pour laquelle je trouve ça intelligent est la suivante.
Cette idée-là, d'imposer d'autorité.
La raison pour laquelle je trouve ça intelligent est la raison suivante, elle est très simple.
l'État est assureur en dernier ressort des faillites bancaires.
C'est l'aléa morale.
Voilà. Oui. Ça veut donc dire que si ça tombe, l'État rembourse à concurrence de 100 000 euros les comptes de dépôt.
100 000 euros.
Donc, quand vous avez une telle responsabilité, vous pouvez pas laisser le volant à quelqu'un sans le contrôler. Je ne comprends même pas de vous à moi que cette idée puisse faire débat.
Ah oui. Et pourtant, en théorie, l'État, c'est un acteur privé.
L'État est assureur en dernier recours au cas où il y a une faillite bancaire.
On voit bien aujourd'hui qu'on est dans un principe généralisé d'imprudence qui, pour moi, caractérise le financier.
Principe généralisé d'imprudence.
Oui, c'est le principe d'imprudence.
On avait le principe de précaution.
Il y a le principe de prudence en comptabilité. Bah là, depuis 20 ans, on est dans le principe d'imprudence. C'est-à-dire, dès qu'il y a un risque à prendre, on le prend et puis on se dit, on verra après ce que ça donne. Et alors, moi, je milite fortement. Dans mon livre, j'ai 60 propositions qui sont vraiment uniquement des pistes de débat et de réflexion. Mais pour moi, je considère que la sécurité financière devrait être au même niveau que la sécurité nucléaire. Les conséquences ne sont pas très différentes entre les deux. C'est-à-dire, on risque des écroulements de société et on ne prend aucune mesure de sécurité. Ce dont on parle en ce moment, c'est par exemple cette séparation des activités de banque de dépôt, de banque d'investissement. C'est exactement ce qui a été fait après la guerre, quand les gens ont tiré les leçons de la crise de 29. Il n'y a pas eu 50 leçons, il ne faut pas que la finance prenne trop de poids, il ne faut pas que les banques soient trop grosses, il ne faut pas que les banques fassent n'importe quoi. Keynes a dit que le plus gros acquis de Bretton Woods, c'était la possibilité de limiter la libre circulation des capitaux. Je veux dire, on a fait ça pendant 30 ans, comme vous le signalez. Il y a eu les 30 glorieuses, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu une seule crise. Depuis les années 80, il y a une idéologie mais qui, pour moi, enfin, en tout cas, est extrêmement mortifère. Et on a supprimé toutes ces mesures de prudence. Et évidemment, comme tout système financier non régulé fait faillite, eh bien, on est en train d'assister à la faillite du système bancaire. Non, mais c'est malheureux. Et on va revenir exactement à prendre les mêmes mesures qui ont été prises en 44, par exemple par le général de Gaulle, quand il a vraiment segmenté les activités du secteur bancaire. Parce que c'est en effet, comme vous le signalez, non seulement ce qui est prudent, non seulement ce qui est de bon sens et ce qui correspond à l'intérêt général.
Et pourtant, en 1944, les technologies n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui, qui rendent encore plus incontrôlable le truc, on voit bien sur les marchés.
Bien sûr.
Ce sera le mot de la fin, Henri Pigeard. On aura parlé des banques, il y a plein d'autres sujets, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir.
Sans souscrire forcément à la proposition de M. Montebourg, je crois qu'il pose une vraie question et je voudrais ajouter un argument à ce qui a été dit. C'est qu'on n'a jamais vu un système ayant une certaine puissance se réformer par lui-même. Rappelez-vous le premier discours de M. Obama à l'automne 2008. Les propositions qu'il faisait sur l'évolution de la régulation bancaire étaient tout à fait pleines de bon sens. Application voisine de zéro.
C'est comme Toulon.
Ce qui prouve bien que les banques, pour des raisons logiques d'ailleurs, après tout, le rôle d'un patron de banque, c'est de chercher le gain maximum et je ne critique pas. Donc, si j'osais une proposition absolue, je dirais il faudrait que les banques soient nationalisées pendant 3 ans, je dis bien pendant 3 ans, le temps de faire, partout dans le monde, le temps de faire les réformes nécessaires. Le problème, c'est quand on nationalise, je ne sais pas bien comment on en sort. C'est une autre question. Mais il n'y aura pas de réforme des banques sans cela. Et donc, je crois que la question de Montebourg est une vraie question, même si je suis loin d'approuver sa solution.
Il va falloir voter Henri Pigeat quand même, ça devient urgent.
Voter Henri Pigeat. On va essayer de lui trouver 500 signatures et puis on votera pour lui après. Il est 9h56.